Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
L'écrivain italien Roberto Saviano, menacé de mort depuis la publication en 2006 de Gomorra, son enquête explosive sur la mafia, décrit la nouvelle génération de mafieux, des adolescents, dans Piranha, son nouveau livre, édité chez Gallimard. Bernard Lehu l'a rencontré. Les sites martyrs d'Irak et de Syrie défigurés par la folie de Daesh sont ressuscités le temps d'une exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris, un voyage en 3D que Sophie Orange a testé pour nous. À la télévision ce soir, un nouveau numéro du magazine de France 2 Aventure de médecine consacré au mystère de la sexualité. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque. Et puis le pianiste Alexandre Tarot vient d'enregistrer pour la première fois un album entièrement consacré à Beethoven. Il s'agit de notre classique d'or, RTL du mois. On le découvrira avec Charlotte Latour.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant tout, on démarre en musique. C'est l'événement de l'année. La sortie vendredi de Mon pays, c'est l'amour, l'ultime album de Johnny Hallyday. Les médias étaient conviés hier après-midi à une écoute et une conférence de presse. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez pu enfin découvrir la dernière chanson de Johnny Hallyday.
Oui, dit titre racé, très rock, entrecoupé d'un instrumental compose cet album. En 37 minutes, pied au plancher, Johnny épate d'abord par la puissance hors norme de sa voix. Impossible de déceler la moindre faiblesse. Elle est grave, intense, bouleversante à écouter aujourd'hui. C'est un album qui avait été pensé pour la scène et en réaction à son précédent disque De l'amour, a-t-on appris hier, un album qui était assez épuré, on s'en souvient. Mon pays, c'est l'amour est à l'inverse très produit, très habillé. Il a été réalisé par Yodelis, alias Maxime Nucci, qui a composé aussi la plupart des musiques. Il ne m'avait jamais mis autant la pression, a expliqué le musicien hier. Johnny avait sélectionné une vingtaine de titres parmi les 50 qui lui étaient arrivés, et notamment des commandes. Johnny voulait absolument une chanson racontant sa future rencontre avec le diable. C'est le morceau qui ouvre l'album, J'en parlerai au diable, où il lâche « J'ai trop flirté avec les limites ». Ça n'est pas la seule phrase qui prend une toute autre dimension aujourd'hui. « Je viens d'un pays qui ne m'a jamais quitté, plage 2. C'est pas le temps qui va user ma carcasse. L'argent s'épuisera bien avant moi. C'est écrit sur ma peau. Je suis made in rock'n'roll, plage 3. » Ou encore « La rage en moi me rappelle que je ne suis qu'un homme, plage 11. » Un disque qui n'a pourtant rien d'un testament. Écoutez Maxime Nucci.
Johnny était vraiment en attente de chansons. La perspective d'un album est tombée au moment où il a su qu'il était malade. Personnellement, j'étais tétanisé. Et donc, je savais qu'à chaque fois que je pouvais lui ramener une chanson que potentiellement il pouvait aimer, et ben, ça lui faisait du bien. C'est tout con, mais c'est ça. J'ai travaillé comme n'importe quel autre disque de Johnny. C'était un disque extrêmement vivant. Johnny avait déjà eu des problèmes de santé dans le passé. À aucun moment, on était dans le doute qui partent et à aucun moment je me suis dit que cet album allait sortir comme il sort aujourd'hui. On a construit le track listing un peu comme une setlist de concerts. C'est un album qui est dense, très orchestré. C'était très difficile de travailler sur sa voix, sur ses textes qui d'un coup prenaient un autre sens. Je crois qu'on a beaucoup pleuré. Ah ouais, ouais, c'était très pénible. J'aurais jamais cru vivre quelque chose d'aussi difficile en faisant de la musique.
Alors musicalement, cet album renferme une quadrilogie entamée en 2012, une quadrilogie entamée en 2012 avec L'Attente, Stephen.
Ouais, Johnny, chanteur d'un groupe rock débridé, incandescent, à l'opposé de la variété qu'il ne voulait plus faire. Le gros plus de ce nouvel album, Johnny est allé puiser dans tous les styles qu'il a pu expérimenter, rock lourd, rock folk, blues, endiablé au débit mitraillette ou carrément taillé pour les stades. Au fil du disque, Hallyday chante l'amour, la prison, sa passion des États-Unis, la séparation et sa hantise d'être abandonné. Un album qui a séduit la trentaine de fans invités à l'écoute hier. Rémi Bouet est le président du fan club officiel de Johnny.
Exalté parce que l'album est exactement ce qu'on peut attendre de Johnny, c'est-à-dire c'est un album parfait entre légèreté et gravité. Il y a du rock'n'roll, il y a de l'introspection. Si j'avais une crainte, c'est qu'il soit trop pathos, quoi. Et il l'est pas.
La voix, difficile d'imaginer qu'il était très malade quand il enregistrait ce disque.
Ah, ça c'est clair. Ça c'est la première chose qui vous foudroie, parce que vraiment il a 20 ans, là, quoi. C'est du pur rock'n'roll.
L'album de Johnny sort vendredi. 100 000 exemplaires devraient se vendre dès minuit une au vu des précommandes. 800 000 albums sont mis dans les magasins.
Merci beaucoup Stephen Bellery. On reparlera évidemment de cet album vendredi dans un Laissez-vous tenter intégralement consacré au dernier album de Johnny Hallyday avec plusieurs invités. On va tout de suite parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque. Ça commence avec nos audiences de la veille, avec Médiamétrie.
Oh, bon, on va se concentrer sur les deux premiers. Les deux premiers, c'est le téléfilm de la Une. Ils ont échangé Mon enfant. 5 200 000 téléspectateurs, joli score. 22% du public sur la Une. Devant, évidemment, L'amour est dans le pré, toujours inoxydable, en deuxième position.
Alors ce soir, Isabelle, place au match de football France-Allemagne. Hein, ce sera sur M6. Mais la médecine est également à l'honneur ce soir à la télévision.
Oui, série médicale sur TF1, soirée médicale consacrée créer notre sexualité sur la 2, on est donc entre bistouri et bistouquette.
La série, c'est évidemment Good Doctor sur la 1.
Oui, on retrouve notre jeune chirurgien autiste avec, entre autres, un donneur de greffe très particulier.
J'ai trouvé un donneur, du groupe O, j'en ai un.
On est sûr ? Parc et moi, on a vérifié et il n'y en avait aucun.
Je l'ai trouvé en ligne, oui, je l'ai contacté, ce qui n'a pas été facile. Mais il veut toujours être donneur.
C'est un miracle, bravo, beau boulot. Attendez, c'est quoi le piège ? Il est d'accord pour être donneur, mais il n'est pas dans le registre ? Il y a forcément un problème.
Eh bien, en fait, il peut pas apparaître dans le registre parce qu'il est en prison pour meurtre. Et plus exactement, pour 7 meurtres.
C'est sûr que donner la vie via quelqu'un qui a donné la mort, ça peut poser problème, comme pose parfois problème notre sexualité, sur laquelle se penche Michel Simès dans Aventure de médecine à 21h sur la 2, enfin 21h10 hein, plutôt. Le sexe, il paraît qu'on y pense toutes les 28 minutes. Raison de plus pour en parler sur la longueur, si j'ose dire. On saura donc tout sur nos pratiques sexuelles, l'érection et ses problèmes, des maladies comme l'endométriose. Et c'est passionnant. J'aime aussi beaucoup la partie historique, avec par exemple les premiers bidouillages pour aider les hommes en difficulté technique.
Donc ça consistait à utiliser une sorte de pompe en verre dans laquelle on faisait le vide, ce qui provoquait automatiquement un afflux sanguin et le pénis gonflait. D'une part, c'était pas très discret, et puis surtout, la verge devenait bleue, devenait froide.
Il y avait l'électricité proposée à un certain moment quand elle était à la mode. Il y a eu aussi, bien entendu, les greffes de testicules de singe. Voronov, qui est le premier à avoir fait une transplantation rénale, a été ensuite un monsieur qui a gagné beaucoup d'argent en transplantant des testicules de singe aux messieurs qui en avaient besoin.
J'espère que ce n'était pas des ouistiti, hein, monsieur. Ne loupez pas la séquence sur Albert Kinsey, ce biologiste engagé pour parler de sexe aux étudiants. Comme c'est un spécialiste de guêpes, le doyen s'était dit bah, « avec lui, on va éviter les sujets scabreux ». Or, ne voulant pas décevoir des jeunes très en demande, ce spécialiste du DAR, rapport aux guêpes, engagea une gigantesque étude de 10 ans, 350 questions posées à 12 000 concitoyens. Ça avait donné le fameux rapport Kinsey, la suite sur la 2 à 21h ce soir. Oui. Vous ne serez pas déçus.
On y pense toutes les 28 minutes, donc bon, il est 9h08. Donc prochain rendez-vous à 9h38. 36. Allez, dans un instant, Bernard Lelu et la Camorra.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
La littérature, Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré l'écrivain italien Roberto Saviano, dont la tête est mise à prix par la Camorra, la mafia napolitaine.
Oui, en 2006, Saviano décrivait les mécanismes de la mafia dans une enquête explosive, Gomorra, devenue un best-seller mondial, puis un film et une série télé. Menacé de mort, Saviano n'en a jamais renoncé à son combat contre le crime organisé.
Et il vient de publier son nouveau livre, Piranhas, aux éditions Gallimard.
Alors, c'est consacré à une bande d'enfants et d'adolescents criminels qui terrorisent les quartiers entiers de Naples et supplante même la mafia traditionnelle. Et si Roberto Saviano a choisi pour la première fois la forme du roman pour évoquer ce phénomène terrifiant de baby ou bambini gang, tout y est vrai.
Phénomène qui existe. Da sempre le organizzazioni criminali hanno bambini nelle proprie strutture.
Ça existe et ça a existé. Depuis toujours, les organisations criminelles ont employé des enfants comme tueurs, comme dealers. Là, c'est différent parce que pour la première fois dans l'histoire mondiale, des enfants et des adolescents arrivent au sommet d'une organisation criminelle et ils la dirigent pendant 4 ans. C'est comme s'ils étaient à la tête d'une grande entreprise mondiale.
I bambini potessero stare ai vertici, che ne so, di una mega azienda per qualche anno.
Et alors on hallucine d'autant plus à la lecture de Piranhas que cette génération de mafieux adolescents est encore plus violente que ses aînés.
Et à différence des mafias traditionnelles,
ce qui les différencie avant tout de la criminalité organisée traditionnelle, c'est que pour eux, la mort n'est pas un simple dommage collatéral. C'est une nécessité, c'est presque leur objectif, mourir à la fin.
C'est vrai, ils ont un rapport différent avec la mort, mais c'est vrai pas seulement à Naples, c'est vrai à Mexico, c'est vrai dans les banlieues parisiennes. C'est-à-dire que c'est leur façon de s'affirmer le plus rapidement possible. C'est-à-dire quand il n'y en a rien pour réussir, c'est la violence et la solution la plus rapide et la plus efficace, c'est parce que c'est tout ce qu'ils ont.
Non, ma di volere di ottenere subito quello che vogliono.
Et à propos de violence, est-ce que Roberto Seveno vit toujours sous protection policière, Bernard ?
Ben oui, permanente, depuis l'apparition de Gomorra en Italie et lors de son passage à Paris.
Oui, je suis toujours sous protection policière, ça fait maintenant 11 ans. Et ce qui est encore plus difficile aujourd'hui, c'est que d'une certaine façon, je dois me justifier. C'est-à-dire qu'on me demande pourquoi je ne suis pas mort. Je dois justifier le fait d'être encore en vie, et il y a toute une partie du pays qui me considère comme un imposteur. Si les menaces étaient réelles, je devrais être mort.
Mais comment, c'est la question qu'on se pose quand on pense à vous, comment est-il possible de vivre dans ces conditions ?
Ils ne m'ont pas tué, mais ils ne m'ont pas laissé en vie non plus. Alors il y a des solutions et j'y pense, mais je me dis que là c'est de la survie, mais qu'un jour ou l'autre il faudra que je trouve une façon de définitivement échapper à ce type de vie qui m'est imposé.
Mais quelles seraient ces solutions ? Fuir, quitter l'Italie, s'éloigner ?
Oui, ça veut dire partir, arrêter d'écrire, arrêter d'évoquer certains sujets, et de cette façon ne plus imposer cette situation qui fait du mal à mes proches, à ma mère, à mon frère, qui en subissent les conséquences. Et pour le moment, je dois encore me battre et je résiste.
Saviano ne rend les armes ni face à la mafia, ni face aujourd'hui au gouvernement populiste italien dont il dénonce la chasse aux migrants.
Questo governo mi odiano gli elettori di questo governo.
Ce gouvernement me déteste et ses électeurs me détestent. Ce gouvernement ne respecte pas ceux qui ne sont pas de son avis. Et c'est là que l'équilibre de la démocratie est rompu. On attaque et on calomnie tous ceux qui sont dans l'autre camp.
En tout cas, pour finir, je dois dire qu'on est très admiratif, respectueux de votre courage, Roberto Saviano.
Grazie per queste parole che non sono scontate. Grazie.
Merci pour ces paroles qui ne vont absolument pas de soi.
Roberto Saviano, l'écrivain qu'on ne fera pas taire, publie Piranhas, son premier roman chez Gallimard, traduit par Vincent Reynaud, qui assure également la traduction de l'interview.
Une rencontre forte et émouvante. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Vous nous faites découvrir, vous, ce matin, l'exposition qu'Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe. Cité millénaire, c'est un voyage virtuel en 3D de Mossoul à Palmyre.
Et c'est poignant, c'est spectaculaire, c'est bouleversant, tout simplement parce que vous êtes devant des martyrs. Mossoul, Palmyre, Alep, des villes en partie détruites par l'État islamique, reconstituées devant vous grâce à des technologies numériques hors normes. Alors, il n'y a pas de vestiges, pas d'œuvres, pas de bas-reliefs ou pas de pilastres, comme vous voulez, mais des écrans géants de 18 mètres de haut sur 6 mètres de large et des images en 3D qui donnent à voir les sites tels qu'ils étaient et tels qu'ils ne sont plus. On a vraiment l'impression d'y être sans y être. Je vais d'abord vous emmener à Mossoul, en Irak. Enfin, vous allez surtout suivre Yves Huberman, le président et cofondateur de la start-up Iconem, qui a tourner ces images.
Là, on est passé d'un plan aérien, en fait, hein, donc on survole la ville et on s'approche d'un monument qui est une église, Notre-Dame de l'Heure. Et là, on rentre à l'intérieur de l'église, c'est-à-dire qu'on traverse le mur et on se retrouve au cœur de cette église, cette structure splendide de voûte, partiellement brûlée, saccagée. On a des débris au sol, détruits par les occupants de l'église qui était l'État islamique.
Et vous entendrez dans l'exposition le témoignage poignant de l'un des pères de Notre-Dame de l'Heure. Il a réussi à protéger des milliers de manuscrits anciens, mais pas le symbole de l'église détruit par Daesh.
L'horloge n'existe plus. Elle a été volée. On a même scié la tour. Et on a volé déjà la machine même, qui tournait d'une manière extraordinaire, très très belle. Et aussi les cadrans. Et également une partie du couvent et de l'église étaient démolies.
Autre expérience, si j'ose dire, vous pourrez aussi mettre un casque et grâce à la réalité virtuelle, vraiment marcher dans Palmyre en Syrie. C'est très impressionnant. Vous allez cette fois suivre Déborah Papiernik d'Ubisoft qui a mis au point cette technologie.
Là, je me retrouve à Palmyre en Syrie. Un des deux temples qui ont été détruits, c'est le temple de Baal Shamin. Alors, je suis au milieu des ruines. Je me dis, waouh, ça devait être magnifique, mais là, je vois que des ruines. Et puis finalement, pour mieux me rendre compte, là, j'ai le temple original qui apparaît un peu en transparence, qui me permet de bien faire la différence entre les ruines qui existent encore et ce temple qui a existé, avec son olivier très très caractéristique qui était à l'intérieur du temple.
Et c'est dans le théâtre de Palmyre que Daesh a mis en scène des exécutions publiques. Vous parcourrez aussi le souk d'Alep, toujours en Syrie. Vous découvrirez la mosquée des Omeyyades telle qu'elle était aujourd'hui par rapport à la splendeur d'hier. Alep, la ville aux mille minarets.
Comment tout cela est-il possible, Sophie ?
Grâce aux équipes d'Iconem fondées par Yves Huberman, elles se sont rendues sur place ces derniers mois sur tous les sites pour prendre des centaines de milliers de photos au sol grâce à des perches ou même des drones. Ils avaient bien évidemment le soutien et l'aide des archéologues sur place. Ensuite, ces images ont été traitées par des gigantesques algorithmes qui ont également travaillé sur des images d'archives pour ce résultat impressionnant.
C'est ça la magie des technologies virtuelles, c'est qu'on peut reconstruire l'état des sites en trois dimensions tels qu'ils ne sont plus visibles aujourd'hui. C'est capital que la conscience collective réalise en fait l'importance culturelle de ces sites et la nécessité de pouvoir les préserver pour le futur et pour les générations futures.
Et je peux vous dire que l'on sort de l'Institut du Monde Arabe sans voix, secoué par tant de beauté, secoué par tant de dégâts. C'est le cas aussi pour la commissaire de cette exposition, Aurélie Clément-Ruiz.
Je pense que l'impact des images est extrêmement fort. Ces immenses projections qui procurent un choc visuel, c'est certain. Et donc, on entre quasiment en empathie. La boule au ventre, parce qu'on se rend compte réellement de l'ampleur. C'est toute une population qui a souffert. Et c'est ça, je pense, qui est d'autant plus poignant. Ce ne sont pas juste des vieilles pierres, finalement, qu'on a touchées. Mais c'est vraiment l'identité d'une population et le cœur des sites.
Des sites qui, on l'espère, bien sûr, retrouveront un jour leur splendeur.
Cité millénaire à découvrir à l'Institut du Monde Arabe. Emmanuel Macron inaugure l'exposition tout à l'heure à 19h. Merci Sophie Orange. Beethoven, Tarot, le classique d'or RTL du mois. Trois raisons de retrouver Charlotte Latour dans un instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et place au classique d'or RTL du mois, Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présentez le nouvel album du pianiste Alexandre Tarot, album consacré à Beethoven.
Premier album d'Alexandre Tarot consacré au compositeur allemand. Il l'a pourtant beaucoup joué en concert. Sur l'album, il joue les trois dernières sonates de Beethoven, composées entre 1820 et 1822, 5 ans avant sa mort. Sonate pour piano numéro 30, opus 109. Beethoven a composé en tout 32 sonates pour piano. Une sonate, c'est une pièce composée le plus souvent pour un instrument en trois mouvements, vif, lent, vif. Mais dans cet opus 109, le mouvement lent arrive en dernier. Attention, innovation. Beethoven, à la fin de sa vie, va en effet chercher à tout chambouler, à déconstruire une forme établie. Alexandre Tarot.
Beethoven, qui à l'époque a peur d'être considéré comme un has-been, se dit, bon, là, je vais faire des sonates dans un style un peu nouveau. Et il cherche. Il conçoit ces trois sonates ensemble. Et c'est des sonates où il y a énormément de musique en très peu de temps. À chaque mesure, il y a une surprise. Vraiment, on arrive dans le dernier Beethoven. Un Beethoven qui a perdu une grande partie de l'ouïe. Donc quand on est interprète, c'est un sacré challenge. De toute manière, on sait qu'on est à côté. Parce que c'est pas ce qu'il a entendu.
Sonate 32, opus 111, en deux mouvements, chose inédite pour l'époque. Beethoven y déploie un thème simple, on vient de l'entendre, en apparence, mais très recherché ensuite dans les variations qui suivent. Il fait jaillir des émotions démesurées dans cette musique, tantôt la colère, tantôt l'apaisement, il touche vraiment aux extrêmes. On a même parfois l'impression que le piano est un orchestre de 80 musiciens, à lui tout seul. Et pour montrer à quel point Beethoven est précurseur, Tarot s'amuse à accentuer le rythme un peu jazzy de deuxième mouvement pour l'amener vers une sorte, écoutez bien, de boogie-woogie.
Ce qui m'intrigue chez ce garçon, c'est qu'il a décidé de ne pas avoir de piano chez lui, dites-moi.
Et oui, il se présente comme un SPF, sans piano fixe. Il aime aller jouer chez des amis, il a un gros trousseau de clés pour développer sa faculté d'adaptation. Et puis, comme il dit, lui éviter d'être esclave de l'instrument. C'est un staccanoviste, hein, notre Alexandre Tarot. En plus des concerts qui lui font traverser la planète chaque semaine, il enregistre un album par an. Je lui ai demandé s'il tenait ce rythme, de peur que le public ou les programmateurs de concerts l'oublient.
Oh, il y a certainement un peu de ça. Vous m'y faites penser d'un coup. Mais vous savez, en fait, si j'avais le choix, j'enregistrerais des disques tous les mois. J'adore être enfermé à triple tour, ne pas voir le monde pendant une semaine, être face à un piano, une œuvre, et aller le plus loin possible dans l'interprétation de cette œuvre. On pleure, on rit, on s'arrête, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, qu'on va tout arrêter, puis on repart, et c'est toute une vie en soi, en quelques jours.
Alexandre Tarot est un personnage assez fascinant, secret au premier abord, qui malgré sa carapace de pudeur se livre tout en subtilité, pas d'exubérance, pourtant Beethoven lui va bien. Ses trois dernières sonates sont jouées avec une richesse de couleurs et un jeu tout en délicatesse. Elles semblent même être un moyen d'introspection pour le pianiste. Les sonates opus 109, 110, 111 de Beethoven par Alexandre Tarot, le classique d'or de ce mois d'octobre, vient de paraître chez Erato, à retrouver dans un film sur Arte le 21 octobre à 18h30 et sur la scène de la Philharmonie de Paris le 22 novembre.
Merci beaucoup Charlotte Latour. Dans un instant, on se sépare et on accueille Julien Courbet. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Il est 9h30, on retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour cher Julien.
Pour grande émission voyant ce jour-là. Je vois dans la boule de cristal Christophe Castaner, ministre intérieur. Je vois Didier Guillaume, ministre agriculture. Je vois Yacine Gourou, ministre en chef des territoires. Et surtout, après Berne et les vérandas courbées et fenêtres, je vois Françoise Nyssen faire publicité mezzanine. Voilà, c'est sorti ou pas encore?
Ben, je vous annonce que vous avez eu un temps d'avance, puisque la dépêche de l'alerte de l'AFP vient de tomber à l'instant même. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
Voilà. Ben, écoutez, voilà. Je rappelle que j'ai une petite caravane Place de la République et que pour 40 euros et un repas chaud, je fais des verres. Alors allez-y, détaillez-nous.
Ben, c'est pas compliqué, on va tout de suite faire le point avec Elisabeth Martichoux qui vient de nous rejoindre. Elisabeth, donc l'annonce du gouvernement est en train de se faire à l'instant même, et donc première confirmation, elle concerne Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur.
Oui, Christophe Castaner, on rêvait, on peut le dire, et le président vient de le faire. Effectivement, il le confirme au ministère de l'Intérieur avec un secrétaire d'État. Laurent Nunez, qui est l'ancien patron de la DGSI, qu'on avait reçu d'ailleurs la saison dernière sur RTL, et qui va donc être l'expert sécurité au ministère de l'Intérieur aux côtés de Christophe Castaner.
Jean-Alphonse Richard, vous avez des informations plus précises concernant M. Laurent Nunez?
Ben oui, c'était un peu une surprise parce que ça s'est fait ces derniers jours. Effectivement, Laurent Nunez était courtisé par Emmanuel Macron. Il avait d'ailleurs été pressenti à une époque pour diriger la police nationale. Alors, il a 54 ans, c'est vraiment un homme du sérail et de l'appareil policier, Laurent Nunez. Il était jusqu'à ses dernières heures patron du contre-espionnage français, la DGSI, et il avait beaucoup œuvré pour le rapprochement avec la DGSE. C'est quelqu'un qui est un haut fonctionnaire, qu'on l'on dit affable, qui est effectivement un gros travailleur. Il est très diplomate, très politique, même s'il n'est pas marqué dans un camp ou un autre. Et c'est un homme qui, tout au long de ses années, a appris à très bien connaître la police, ses méandres, la puissance des syndicats, les susceptibilités hiérarchiques. Et c'est donc lui, auprès du nouveau ministre de l'Intérieur, qui sera un petit peu l'œil de la sécurité, qui aura pour mission de gérer les dossiers en cours, et notamment le dossier pas si simple de la police de proximité. Et il faudra pour lui rassurer aussi des personnels qui sont toujours très sensibles en matière policière.
Et je vous donne la liste telle qu'elle est tombée pour l'instant. Donc Christophe Castaner, nommé ministre de l'Intérieur, épaulé par Laurent Nunez. Didier Guillaume remplace Stéphane Travert comme ministre de l'Agriculture. Jacqueline Gourault, qui était l'invitée d'Elisabeth Martichoux ce matin, est nommée à la tête d'un grand ministère des territoires. Franck Riester est nommé ministre de la Culture à la place de François Nyssen. Et Marc Fesneau du Modem remplace donc Christophe Castaner aux relations avec le Parlement.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a donc trois sortants. On l'avait dit déjà, effectivement, M. Travers, l'agriculture, Gérard Collomb, on le savait, il s'est sorti lui-même du ministère de l'Intérieur, et Françoise Nyssen, ce sont les trois sortants. Et ce qui fait qu'effectivement, on parle de remaniement plus large depuis déjà une quinzaine de jours, 15 jours pour remplacer trois ministres, c'est qu'il y a des entrants et il y a des ministères qui sont renforcés.
Voilà. Alba Ventura.
Oui, non, pour rebondir sur ce que disait Jean-Alphonse Richard, au ministère de l'Intérieur, avec ce nouveau couple Castaner-Nunez, ça nous fait penser un peu au couple Pasqua-Pandreau, à l'époque des années 80, quand Pandreau était ministre délégué à la Sécurité. Pasqua disait « j'étais plus politique, il était plus technicien ». Et vous savez, en plaisantant, on les appelait Starsky et Hutch. Et effectivement, il était beaucoup plus technicien, puisqu'il a été patron de la police nationale, Jacques Pandreau.
Olivier Boss, on assiste aussi à un rééquilibrage politique, puisqu'il y a l'entrée d'un socialiste en la personne de M. Didier Guillaume, Marc Fesneau du Modem, qui remplace M. Castaner en relation avec le Parlement. gouvernement, et Franck Riester qui est nommé ministre de la Culture, qui est un proche d'Alain Juppé.
Alors oui, l'équilibre global ne change pas réellement, parce qu'effectivement, s'il y a des sorties comme celle de Jacques Mézard ou de Stéphane Travert, donc à la fois des socialistes, des radicaux socialistes, c'était dans ces familles politiques qu'ils étaient. Il y a Didier Guillaume qui effectivement était un socialiste, mais depuis quelque temps au Sénat, inscrit chez les radicaux. Franck Riester, c'est plus intéressant, puisque là, il vient piocher chez Agir, donc encore une partie à la droite. Mais globalement, si on regarde l'équilibre de ce nouveau gouvernement, au-delà des familles politiques, c'est surtout effectivement sur ce qui apparaît comme les priorités, c'est-à-dire les territoires, et puis les faiblesses, qui étaient les faiblesses du précédent gouvernement, c'est-à-dire à l'agriculture comme à la culture, il fallait remplacer les ministres. C'est donc pas une question globale d'équilibre politique, mais plutôt des faiblesses qu'il fallait corriger.
Moi, je trouve que la marque En Marche est quand même très prégnante dans ce nouveau remaniement. C'est-à-dire qu'on a du PS modéré, on va dire, avec l'entrée de Didier Guillaume, qui est quand même un valsiste, hein, c'est un socialiste version Manuel Valls. On a une entrée du Modem et on a une entrée d'un proche d'Alain Juppé, donc avec Franck Riester. Donc on reste quand même dans cette marque, il n'y a rien de spectaculaire. On reste dans la marque En Marche.
Alors, c'est pour un nouveau départ, ce nouveau gouvernement, Elisabeth Martichoux.
Un nouveau départ, un acte 2, effectivement, c'est très nécessaire. Une petite précision quand même, puisqu'on parlait du caractère En Marche de ce gouvernement. Ça n'est pas encore annoncé, mais ça va être confirmé. Le plus jeune ministre, un des plus jeunes ministres, ce sera désormais Gabriel Attal. Il est secrétaire d'État et il vient rejoindre en fait le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avec un secrétaire d'État sans attribution, comme le sont les secrétaires d'État du gouvernement sous Macron, mais avec la tâche de s'occuper en particulier la mise en place du SNU, le Service National Universel, qui est un énorme chantier extrêmement coûteux et qui est une des promesses majeures. Il a 29 ans. Je crois de mémoire que seul François Baroin, quand il est entré au gouvernement, était aussi jeune. Il fait ce qu'on appelle partie de la bande de Poitiers. C'est un proche du président. La bande de Poitiers, ce sont ces jeunes qui avaient lancé les Jeunes avec Macron, un mouvement précurseur justement du parti En Marche. Il est député des Hauts-de-Seine et il est porte-parole d'En Marche depuis plusieurs mois.
Et ancien du cabinet de Marisol Tourelle.
Ouais. Et c'est un proche aussi de Christophe Castaner. Et enfin, il avait une passion, c'était l'audiovisuel public. Il avait beaucoup travaillé. Ben non, c'est pas lui qui mettra en œuvre la réforme. Lui va s'occuper des jeunes.
On n'a donc plus qu'une chose, Elisabeth Martichoux, maintenant, c'est que le président de la République se décide à nous donner la notice sur le mode d'emploi de tout ça et surtout à prendre la parole, non?
Ah ben oui. Je pense qu'il attendait quand même ce moment. J'insiste, hein. 14 jours. Il y a 14 jours que Gérard Collomb a annoncé dans l'Express l'après-midi qu'il allait partir. Il aura fallu 14 jours. 14 jours de quoi? De tergiversation, d'hésitation, de pesage. Aussi, on le sait, beaucoup de relationnel avec les personnes qui vont partir. Il est parti avec, par exemple, Françoise Nyssen à Yerevan. Il aime quand même faire les choses comme il le sent. 14 jours pour arriver à cet équilibre qui, normalement, c'est ce qu'il espère, c'est pour ça qu'il a attendu, devrait être beaucoup plus fluide que ce que ça a été ces dernières semaines. L'enjeu, il est là. Alors, aussi.
Cependant, on dit acte 2, faut pas non plus y voir un nouveau souffle parce que, et ça Emmanuel Macron l'a répété à maintes et maintes reprises, il n'y a pas de changement de cap, il n'y a pas de changement de ligne. C'est pour ça qu'on a ce gouvernement d'ailleurs qui est dans la ligne de ce que le président a souhaité, c'est-à-dire un nouveau gouvernement qui ressemble assez à ce qui existait déjà, quoi.
Et je vois.
On a simplement fait sortir les maillons faibles.
Voilà.
On a fait sortir les maillons faibles.
Juste et on renforce quelques ministres.
Et voilà, on a bouché les trous.
À propos de Franck Riester, je voudrais juste dire le proche de Juppé, Franck Riester. Il a été rapporteur du projet de loi Hadopi à l'époque sur la protection des données Internet, vous savez, et il a fait partie de la commission COPE sur l'audiovisuel. Et c'était ce qui manquait, cette dimension, à Françoise Nyssen.
Je vous rappelle donc l'annonce officielle. Christophe Castaner est nommé au ministère de l'Intérieur. Didier Guillaume, socialiste, remplace Stéphane Travert comme ministre de l'Agriculture. Jacqueline Gourault est-elle nommée à la tête d'un grand ministère des Territoires. Franck Riester, vous venez de le préciser, Alba, est nommé ministre de la Culture à la place de Françoise Nyssen. Et enfin, Marc Fesneau du Modem remplace Monsieur Castaner aux relations avec le Parlement. Nous y reviendrons dès notre journal de 10h et on va pouvoir maintenant retrouver La Voyance et Julien Courbet.
Bon, merci beaucoup et vous intervenez bien sûr dès que ça change, que ça peut rechanger qui sait d'ici 10h.
Bon, je viendrai vous consulter dans votre petite caravane. Hein. Allez, belle
avec
émission.
Plaisir mon Yves.